Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une fusillade à Marseille dans un bar qui ne semble pas être un règlement de compte.
Hier soir, 6 personnes ont été blessées. L'une d'entre elles est toujours dans un état grave ce matin. Le passage de relais sur les rails. Guillaume Pépi laisse son fauteuil aujourd'hui à Jean-Pierre Farandou. On en parlait il y a un instant. Un homme qui connaît par cœur l'entreprise. Les cigarettes électroniques seraient responsables de plusieurs morts aux États-Unis. Est-ce que cela pousse les Français à moins vapoter ? C'est la question du 8 heures. Le culte de l'image est devenu si important pour les jeunes générations que cela va bien au-delà de la mort. L'incinération n'a plus la cote. Pas question de réduire en cendres tout le travail esthétique d'une vie. Et puis, il y aura bien un Français en finale demain dans la Coupe du monde de rugby au Japon, entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. L'arbitre est un enfant du Béarn.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
6 personnes blessées donc hier à Marseille lors d'une fusillade. L'une est toujours dans un état très grave. Un homme a ouvert le feu dans un bar du 15e arrondissement. Ce sont les quartiers nord de la ville. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL, Étienne. Pour l'instant, rien ne dit qu'il s'agit d'un règlement de compte.
Non, en effet, alors le rideau métallique du bar Le Terminus est resté baissé ce matin. Sur le trottoir, les tables et les chaises n'ont pas été rentrées et l'une d'elles est encore tachée du sang des victimes. 6 personnes, vous le disiez, blessées, dont une gravement, mais ces jours ne sont plus en danger. Les policiers ne parlent donc pas de règlement de compte. Ce matin, ils s'interrogent encore sur les motivations de cet homme qui débarque hier soir vers 20h30 à moto, sans autre explication et à visage découvert. Il sort un fusil à pompe et tire à plusieurs reprises. Des clients, dont certains jouaient au baby-foot, sont touchés. Le tireur s'enfuit et il semblerait finalement qu'il n'ait pas été interpellé. Il y a eu confusion ce matin. L'homme est donc toujours recherché. Alors coup de folie, avancent certains. Des habitants du quartier nous expliquent aussi que ce bar abritait peut-être des jeux clandestins. Bref, des hypothèses que vont devoir creuser les enquêteurs. Des voisins du bar, eux, balancent entre dégoût et fatalisme.
Franchement, ça nous choque parce que moi j'ai un enfant de 3 ans et demi et c'est choquant quoi. Et on peut se prendre une balle... Une balle perdue, quoi. Sinon, on prend un peu l'habitude. Avec tant de mœurs qu'il y a eu à Marseille, c'est quand même... J'aimerais bien déménager de là, hein. Je vous dis la vérité, hein. Marseille, ça y est, c'est plus comme avant. C'est plus la même génération.
Et un autre habitant qui vit dans ce quartier depuis 50 ans regrette, lui, l'ambiance qui se détériore ici depuis des années.
Étienne Baudu, le correspondant de RTL à Marseille, en direct. Merci Étienne.
RTL Matin, 8h03.
La SNCF a un nouveau patron puisque Jean-Pierre Farandou succède à Guillaume Pépi.
Jean-Pierre Farandou est un homme du rail et du sérail car le nouveau dirigeant est entré dans l'entreprise en 1981. Il n'empêche, ses nouvelles fonctions tombent en pleine réforme ferroviaire. Le climat social est tendu, mais il a une vraie carte à jouer avec les syndicats. La plupart le respectent, savent qu'il connaît par cœur leur métier. Écoutez Didier Matisse, le secrétaire général d'UNSA Cheminots.
Monsieur Evrard Farandou correspond au profil que nous avions demandé au gouvernement, à savoir un profil industriel issu du sérail. Parce que comme aujourd'hui le climat social est très difficile et la réforme du ferroviaire va tomber au 1er janvier, nous voulions quelqu'un qui connaisse très bien l'entreprise pour gagner du temps. Parce que si nous avions eu quelqu'un complètement inconnu et qui ne connaissait pas du tout le ferroviaire, on aurait eu énormément de pertes de temps par rapport aux problématiques qui sont elles concrètes aujourd'hui et qui demandent des réponses immédiates. On attend qu'il se mette en rupture par rapport à son prédécesseur. La fin de règne de Guillaume Pépi a été très difficile. Ses sorties médiatiques par rapport au droit de retrait des cheminots, par rapport à l'accident qu'il y a eu en Champagne-Ardenne, n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, on a besoin de tout, sauf d'un pyromane.
Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. L'arrivée de Jean-Pierre Farandou est une vraie page qui se tourne à la SNCF. Guillaume Pépi tenait les rênes de l'entreprise depuis plus de 11 ans. Il restera un patron au bilan contrasté. Avec le pire comme le meilleur, Anaïs Bouissou.
Oui, Guillaume Pépi, c'est d'abord l'homme qui a incarné la SNCF contre vents et marées, toujours sur les quais, des départs en vacances aux grèves et accidents. Les ministres des Transports et les majorités se succédaient, mais Pépi, lui, est resté. Son bilan financier, d'abord, c'est son point fort. Après des années de déficit, les comptes de la SNCF sont repassés dans le vert grâce notamment à 3 changements majeurs. 1. Le développement de l'entreprise à l'échelle mondiale, au-delà de la France. 2. les débuts du TGV low cost, le Ouigo, pour faire baisser des prix souvent jugés excessifs. Et trois, l'entrée de la SNCF dans l'ère du numérique. Guillaume Pépi a engagé le virage du e-commerce avec le site internet voyagesncf.com, énorme plateforme d'achat des billets. Mais Guillaume Pépi a aussi traversé le pire, la catastrophe de Brétigny en 2013. 7 morts et un patron en larmes sur les lieux de l'accident. Le drame mettra en lumière les défauts d'infrastructure de la SNCF et le manque d'investissement dans les rails vieillissants. Autre accident terrible, le déraillement d'une rame d'essai du TGV Est en 2015. 11 morts, 42 blessés. Enfin et surtout, le bilan de Guillaume Pépi, c'est la transformation sociale de la SNCF, la réforme ferroviaire que certains en interne ne lui pardonnent pas. Réforme avec son lot de grèves et ses rancœurs tenaces. L'an dernier, l'entreprise a frôlé le record de débrayage du grand mouvement social de 95.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou du service économique et social de RTL. Plusieurs changements à noter en ce 1er novembre. Dans plusieurs domaines, nouvelle hausse du prix du paquet de cigarettes, 50 centimes de plus en moyenne. Augmentation également des tarifs du gaz, plus 3%. Et puis, il y a aussi une nouvelle complémentaire santé pour les plus modestes.
RTL Matin 8h06.
C'est devenu une tradition, le mois de novembre, c'est en fait le mois sans tabac.
Tout est fait pour encourager les fumeurs à abandonner la cigarette. Parmi les substituts qui ont la cote, il y a les patchs bien sûr, mais aussi les cigarettes électroniques. Sauf que depuis quelques mois, ces dernières font polémique aux États-Unis.
Alors cela a-t-il un impact sur l'utilisation de l'e-cigarette en France? Eh bien c'est la question de 8h.
Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
18 personnes sont mortes aux États-Unis, toutes vapotées. Alors, est-ce que ces décès, Sophie Jousselin, ont eu des répercussions sur les ventes en France?
Oui, avec une baisse d'environ 30%. Il y avait déjà eu une première alerte en juillet dernier, après la publication par l'Organisation mondiale de la santé d'une étude affirmant que la cigarette était nocive, que la e-cigarette était nocive. Mais ce sont vraiment les décès aux États-Unis qui ont déclenché cette crise de confiance dans notre pays. Et l'impact est inédit pour la profession. Dans 80% des cas, ce sont les nouveaux utilisateurs, ceux qui avaient l'intention de se mettre à la e-cigarette, qui désertent les boutiques, les kits débutants ne se vendent plus. Certains fumeurs habituels ont préféré, eux, retourner à la cigarette classique et les professionnels redoutent des conséquences économiques si la situation ne s'améliore pas avec des fermetures de boutiques.
Et pourtant, Sophie, on est d'accord, hein, la situation n'a strictement rien à voir entre la France et les États-Unis.
Absolument, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'outil, la e-cigarette, et ce qu'on met dedans. Et les décès aux États-Unis sont dus à l'utilisation de liquides toxiques contenant du THC, une des substances du cannabis, le tout coupé avec des huiles frelatées, souvent achetées au marché noir. En France, la situation est totalement différente. Déjà, il n'y a pas de marché noir. Et tous les produits vendus en boutique sont très sévèrement contrôlés par les autorités de santé, donc sans risque.
La question du 8h avec Sophie Jousselin. Une pause et dans un instant, la crémation qui n'a plus la cote auprès des jeunes Français. Ils préfèrent revenir à l'inhumation. Toi, tu es plutôt crémation? Non, moi, je suis plutôt inhumation dans les cours d'école, comme ça. C'est intéressant comme conversation.
RTL Matin, 8h08.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal. Agnès Bonfillon, Yves Calvi.
Et les jeunes ne sont plus si intéressés que ça par la crémation.
Oui, pourtant, l'incinération a connu un bond spectaculaire ces dernières années. Mais effectivement, les moins de 40 ans préfère être inhumé. Ça colle bien hein, avec la tendance du moment, le culte de l'image qui se poursuit après la mort. Enquête très intéressante du Crédoc sur laquelle revient Pascal Hébel.
Ils vont vouloir, dans cette inhumation, finalement préserver leur corps. On a une évolution dans la société qui est que les valeurs de liberté individuelle font qu'on recherche un peu plus une identité. Et en cherchant une identité, eh bien, on veut finalement utiliser son corps pour exister. L'exemple, c'est la chirurgie esthétique, c'est le tatouage, c'est le fitness. Et donc, ils ont moins envie que les générations précédentes de disparaître. Et la crémation a cet inconvénient-là, c'est en effet d'être réduit en cendres et donc ne plus exister physiquement. Et une deuxième raison de cette volonté d'inhumation pour les plus jeunes, c'est sans doute que quand il y a des crémations, il y a moins de rituels. Qu'est-ce qu'ils veulent pour des obsèques? Ils veulent beaucoup plus de la musique, des photos du défunt, ils veulent des fleurs un peu plus que les autres, ils veulent vraiment qu'on puisse parler de lui. Les plus jeunes sont plus en recherche de personnalisation.
Pascal Hébel avec Armel Lévy pour RTL.
RTL matin 8h10.
Au Brésil, cela fait deux mois qu'une marée noire touche les côtes du littoral.
Et on ne sait toujours pas d'où proviennent ces galettes de pétrole. Le plus grave, c'est que les autorités ne parviennent pas à les contenir, à les faire disparaître. Près de 250 plages sont souillées, la faune est décimée. Les habitants, eux, désespérés, tentent de faire ce qu'ils peuvent pour nettoyer. Ils ont très peu de moyens et se sentent abandonnés. Écoutez ce reportage de notre correspondante Sarah Cozzolino.
En tongs et sans protection, Rosane Pamplona passe la plage au peigne fin. À l'aide d'un petit bâton et d'une bouteille en plastique, elle récolte les galettes de pétrole sur le sable.
Nous, on a envie de crier. Parfois, j'ai envie de rien faire ou que de pleurer. Mais il faut faire quelque chose. Je trouve que c'est incroyable, cette union de tout le monde.
Malgré la nuit, les habitants continuent leur travail de fourmi. Une quarantaine de bénévoles se relaient sur la plage de Bainema. Enrique Maciel est épuisé.
Ça fait trois jours que j'ai des maux de tête horribles. Je n'arrive pas bien à m'alimenter. J'ai un goût métallique dans la bouche.
Une tortue a déjà été retrouvée, agonisante. Les coraux et la mangrove, joyaux naturels de l'île, sont également touchés et les habitants se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Philippe Baxter coordonne les bénévoles.
Le désastre est immense et la façon dont les autorités le traitent est d'une totale irresponsabilité. Donc on sait que si l'aide n'arrive pas, on doit s'organiser pour tout faire nous-mêmes.
L'île de Boipeba, qui vit principalement du tourisme et de la pêche, risque d'être fortement affectée par cette marée noire.
Le reportage de Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL.
Alors, si les Français n'ont plus rien à espérer au championnat du monde de rugby au Japon, dans la Coupe du Monde très exactement, dans le Béarn, et bien une famille va regarder attentivement la finale demain entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud.
Et pour cause, l'enfant du pays, Jérôme Garzès, va arbitrer le match, s'il vous plaît. C'est le premier Français à utiliser le sifflet à ce stade d'une compétition. Un beau cadeau de départ à la retraite, puisque ce sera son dernier match en tant qu'arbitre, Denis Grangeau.
Oui, sous les poteaux blancs du terrain de l'ES à Rudy, avec un arrière-fond, le pic du Midi d'Ossau, Jean, dit Tonton Jeannot, 82 ans, et il n'est pas peu fier de son Jérôme.
C'est ici qu'il a commencé, au moment où moi j'ai terminé.
C'est lui qui l'a guidé dans ses premiers coups de sifflet, sans imaginer ce destin hors norme.
Pas quand il a commencé l'arbitrage, mais quand il est devenu professionnel, oui. Je lui avais même dit qu'il irait très très loin.
C'est merveilleux pour lui, c'est pour tout le monde.
Cette voix, c'est celle de Nénette, une des tantes de Jérôme. Elle est restée au pays pendant la Coupe du Monde et elle avoue son stress.
J'ai peur que quelqu'un lui rentre dedans, je stresse, voilà.
Et Nénette, au risque de choquer dans cette région d'Ovalie, avoue qu'elle n'est pas très ballon ovale.
Ah non, donc je regarde les hymnes, je regarde le coup d'envoi. Et je ferme la télé.
Chez les Garcès, mais aussi dans toute la vallée d'Ossau, autour du village d'Arudy, le temps va s'arrêter durant la finale. Oui, un Français sera bien en finale de la Coupe du Monde. Et en plus, il est béarnais. Son tonton Jeannot ne lui souhaite qu'une seule chose.
Et qu'il soit lui-même. S'il est lui-même, il sera grand.
S'il est lui-même, il sera grand. Un grand bonjour à Nénette et Tonton Jeannot. Le reportage de Denis Grangeau dans le Béarn pour RTL. Avant le choc Angleterre-Afrique du Sud, la petite finale, c'est ce matin, à 10h, heure française. La Nouvelle-Zélande affronte le Pays de Galles. En tennis, au Masters 1000 de Paris-Bercy, ils l'ont fait, son gars et mon fils. Les deux se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le premier a battu l'Allemand Struff en 3-7, 2-6, 6-4, 7-6. Pour arracher son ticket en demi-finale, il devra vaincre Rafael Nadal. De son côté, Gaël, mon fils, a sorti le Moldave Albolt 4-6, 6-4, 6-1. Aujourd'hui, il affrontera le Canadien Denis Chapovalov.
On termine avec l'histoire du jour, Agnès.
Ça se passe en Californie, dans un collège, comme de très nombreux établissements. Les élèves ont accès à des numéros pour se confier en cas de problème, de questions, voire de déprime. Et là, en l'occurrence, il y a eu, comment dire, une bourde sur la brochure mise à disposition des jeunes. Le numéro d'urgence SOS dépression, voire SOS suicide, comportait une erreur de chiffre à la fin. Et du coup, ce n'était pas un psy au bout du fil, mais des hôtesses d'un téléphone rose. Autant vous dire que certains parents n'ont pas du tout apprécié. En revanche, l'histoire ne dit pas si cela a remonté le moral des troupes.
Mais bien entendu, c'était le journal d'Agnès Bonfillon. Sinon...